Vous êtes avec SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Ça s'est passé un 13 décembre, direction l'année 1963. Au cœur de la guerre froide et d'une course à l'espace de plus en plus tendue, l'ONU adopte une première charte du droit de l'espace. Une résolution essentielle pour empêcher que l'orbite terrestre ne devienne un nouveau champ de bataille. Retour sur la naissance de ce texte fondateur, sur fond de rivalité entre superpuissances, de premiers exploits spatiaux et de la volonté de préserver l'espace comme un domaine pacifique au service de toute l'humanité, les explications d'Iléana Guillochon.
L'adoption de la Charte du droit de l'espace, une résolution visionnaire porteuse d'enjeux majeurs dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. On est en pleine guerre froide et la course à l'espace s'accélère. Alors replongeons-nous dans l'histoire de la première charte et de la conquête spatiale. En 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achève. Deux superpuissances émergent, les États-Unis et l'Union soviétique. L'Europe est coupée en deux, séparée par une frontière symbolique qui marque le début d'un affrontement idéologique, politique et militaire à l'échelle mondiale.
L'époque des grandes épopées et des enthousiasmes planétaires est terminée. Commence celle de l'astronautique opérationnelle, celle du service et de l'efficacité.
À ce moment-là, les questions de sécurité et de souveraineté surgissent très vite. On commence à craindre que l'espace devienne un nouveau terrain de guerre avec des satellites espions ou même des armes nucléaires. Il devient donc essentiel de réguler tout ça pour garantir que l'espace reste un domaine pacifique dédié aux avancées scientifiques. Et au milieu de tout ça, il y a l'ONU. Dès 1957, quelques mois avant le premier satellite artificiel, les Nations Unies commencent à réfléchir à comment garder l'espace pacifique. À la fin des années 50 et au début des années 60, elles étudient déjà des propositions pour interdire l'usage militaire de l'espace. L'objectif est clair, éviter que des armes de destruction massive soient installées en orbite. Pendant la guerre froide, la course aux armements accélère le développement des fusées et ouvre la voie à la conquête spatiale. L'URSS, qui ne maîtrise pas encore le nucléaire, mise alors sur les fusées pour créer un missile intercontinental. Et malgré les efforts des équipes américaines, le pays garde une avance nette.
En réalité, les Russes se sont longuement préparés durant les années 50. Les Américains, eux, n'ont rien fait. L'espace, ce n'est pas une affaire commerciale comme les autres et le système industriel américain s'en est désintéressé.
Le 4 octobre 1957, elle envoie Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel. Et juste un mois plus tard, la chienne Laika devient le premier animal envoyé dans l'espace par les soviétiques. En réaction au lancement de Sputnik, la NASA est créée par les Américains, avec pour objectif d'emmener l'homme au-delà des frontières de la Terre. Ce n'est donc pas seulement une compétition technologique, mais aussi un véritable défi culturel. Là, des questions juridiques viennent se poser, à qui appartient l'espace et comment l'utiliser. Dès 1959, l'Assemblée générale des Nations unies crée une instance dédiée, le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, un nom qui montre bien les enjeux de l'époque. Puis naît la première charte du droit de l'espace, signée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies ce 13 décembre 1963. De son nom complet, Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Cette première charte a servi de base aux principes qui seront consacrés quelques années plus tard par les traités internationaux. Dans l'espace, les règles sont simples. La première, il doit être utilisé pour le bien de toute l'humanité. Aucun État ne peut s'approprier l'espace ou les corps célestes. Toutes les activités doivent respecter le droit international et encourager la coopération, et chaque pays reste responsable des objets qu'il envoie et des dommages qu'il pourrait causer. Bien sûr, ce traité connaîtra des prolongements par la suite.
Le 12 avril 1961, un coup de tonnerre résonne à travers le monde. La Russie soviétique a réussi à projeter un homme dans l'espace, à le placer en vol orbital autour de la Terre et à le ramener vivant.
Yuri Gagarin devient officiellement le premier humain dans l'espace. Le voyage dure 1h et 48 minutes, un vol inédit qui connaîtra d'ailleurs quelques cafouillages techniques. Un an plus tard, Alan Shepard, astronaute américain, fera son entrée dans l'espace par la suite. Avec la présence d'humains dans l'espace, d'autres obligations s'ajoutent à la charte la même année, notamment l'obligation d'assistance. Les astronautes sont considérés comme des envoyés de l'humanité. En cas de détresse, tous les États doivent leur venir en aide et garantir leur retour en sécurité, quel que soit le lieu, la nationalité ou l'agence qui les emploie. C'est en 1967 que le traité sur l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, sera signée et ouverte par 3 gouvernements dépositaires. S'ajouteront alors d'autres principes un peu plus contraignants juridiquement. On parlera de l'accord sur la Lune, qui affirme que la Lune et ses ressources appartiennent à toute l'humanité, l'accord sur le sauvetage des astronautes ou la convention sur l'immatriculation. Au XXIe siècle, la conquête de l'espace change complètement. Elle s'ouvre à de nouveaux acteurs comme la Chine, l'Union européenne, l'Inde ou le Japon. Et ce n'est plus seulement une affaire géopolitique, de grandes entreprises privées entrent aussi dans la course, certaines avec l'idée de coloniser Mars et d'autres tournées vers le transport aérospatial. Avec tous ces nouveaux acteurs, le risque de conflit augmente, que ce soit sur la Lune ou sur d'autres planètes. Pour éviter toute confrontation, les Nations Unies s'appuient aujourd'hui sur 5 traités dédiés à l'espace extra-atmosphérique.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.